la matinale d'Europe 1 avec vous, Mathieu Béliard, et avec votre invité.
Bonjour Antoine Dulin.
Bonjour Mathieu Béliard.
Membre du Conseil économique, social et environnemental, président de la commission Insertion des jeunes. Les acteurs de l'actualité en direct le matin sur le plan social, sur le front de l'emploi, va-t-on découvrir l'émergence d'une génération Covid? C'est la question. Pour démarrer, pourquoi cette inquiétude sur la jeunesse? Qu'est-ce qui fait que les jeunes en période de crise sont les plus impactés ou en tout cas impactés en premier?
Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les jeunes sont déjà impactés par la crise sociale. On l'a vu, il y a des étudiants qui ont eu beaucoup de problèmes pour se nourrir pendant cette période de crise sanitaire et de confinement, hein, avec les restos universitaires qui ont été fermés, les structures d'aide alimentaire qui ont mis du temps à rouvrir. On a eu beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés sous le seuil de pauvreté. On avait déjà un taux de pauvreté en France de 1 jeune sur 5 qui vivait sous le seuil de pauvreté. Et là, ça s'est révélé à la fois dans le monde étudiant, mais aussi sur les jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Il y en a à peu près 1 million aujourd'hui dans notre pays, et plus de la moitié d'entre eux sont des gens qui sont en grande précarité ou en recherche d'emploi, et on peut le voir dans la rue avec des problèmes de sans-abrisme pour les jeunes.
J'allais y venir, hein, sur la situation de la précarisation de la jeunesse. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce que dans une période de crise, on peut craindre pour l'emploi en général, mais pourquoi pour les jeunes en particulier?
Parce que généralement, dans le monde du travail, les jeunes sont la variable d'ajustement du marché du travail. Là, on va avoir 700 000 jeunes qui vont rentrer, qui sortent d'études et de formation, et qui vont rentrer dans le monde du travail, sur le marché du travail. Et on sait très bien, en période de crise, on l'a vu en 1993, on l'a vu en 2008, que ce sont eux les premiers impactés par le ralentissement de l'économie et par des retards dans des embauches.
On parle de 450 000 destructions d'emplois salariés alors qu'il y aura 700 000 nouveaux entrants sur le marché du travail. L'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, parle d'une baisse de 65% des offres d'emploi pour les jeunes avec moins d'un an d'expérience. Pourquoi les perspectives sont-elles si sombres? Pourquoi sont-ils une variable d'ajustement alors que normalement ils sont moins chers?
Oui, mais c'est une variable d'ajustement parce que à un moment donné, quand les entreprises doivent faire un choix pour garder l'entreprise, ils vont préférer garder les salariés, ce qui est normal, hein, qui sont déjà dans l'entreprise, plutôt que de recruter de nouvelles personnes. Et donc, dans ce système de conjoncture, les jeunes qui sont à la porte du marché du travail vont postuler à des postes, sauf qu'ils vont être très nombreux à postuler à différents postes. Et il y a des phénomènes de déclassement qui se jouent, c'est-à-dire des jeunes qui vont postuler, qui ont des niveaux de bac plus 5 qui vont postuler à des postes bac plus 3 parce que c'est bouché au niveau des recrutements au niveau des bac plus 5, et ensuite un phénomène qui va être de plus en plus fort pour les jeunes qui sont sans qualification, sans diplôme. En 2008, hein, le taux de chômage des jeunes avait augmenté de 3 points. On avait atteint des taux de chômage de 26% pour les jeunes de moins de 25 ans, avec plus de 50% de taux de chômage dans les quartiers dits politiques de la ville ou en Outre-mer.
C'est très important ce que vous avez précisé en utilisant l'expression déclassement. Aujourd'hui, le diplôme, c'est toujours une sécurité, mais il va perdre de sa valeur.
Oui, voilà, il perd de sa valeur dans quand il y a une attrition du marché de l'emploi. Le diplôme reste une bouée de sauvetage, et c'est important de pouvoir continuer à se qualifier, à se former. Mais effectivement, il y a un phénomène de déclassement qui fait que on peut avoir un très beau diplôme, mais rentrer dans un marché du travail qui est contraint et également avec des rémunérations qui sont souvent à la baisse. Hein. La génération 2008-2010 avait connu des rémunérations dans l'entrée du marché du travail très différente des générations précédentes, ou même des générations actuelles autour de 2016-2017, quand la croissance était repartie, où il y avait eu plus de possibilités. On avait vu le chômage.
J'allais vous poser la question à la fin, mais justement, cette génération 2008, 2009, 2010, plus de 10 ans après, là, on en est où? Vous avez des nouvelles? Est-ce qu'ils ont rattrapé ce retard?
On rattrape jamais un retard d'entrée sur le marché du travail, et d'autant plus pour les personnes qui sont sans qualification et sans emploi. Dans cette génération, on a des jeunes qui, 7 ans après, 8 ans après, sont toujours dans cette dans cette galère, hein, dans cette économie de la débrouille où ils vont enchaîner des CDD, des intérims, sans être toujours dans un emploi stable. Et on sait combien dans notre pays, la question d'avoir un CDI, c'est aussi permettre de pouvoir s'engager dans des vies familiales, pouvoir accéder à un logement, etc. Et on a, dans cette génération 2008-2010, des jeunes qui, parce qu'ils n'avaient pas de diplôme, parce qu'ils n'avaient pas de qualification, étaient toujours...
C'est sombre, hein. C'est sombre ce que vous dites, Antoine Dulin. Ça veut dire, pardonnez-moi, hein, que les jeunes qui sont en train de terminer leurs études, en train d'arriver sur le marché du travail, vous leur dites qu'ils sont partis pour avoir du retard, le garder, et pour 10 ans compliqué, quoi.
Oui, à la fois c'est sombre et en même temps c'est là où on doit voir la puissance publique, on doit voir l'État, comme on l'a vu pendant cette crise, qui a mis en place des dispositifs par exemple de chômage partiel, on doit voir l'État qui ne doit pas laisser cette génération qui peut être sacrifiée, cette génération Covid, aux portes du monde du travail. Et il y a des mécanismes, hein, on peut explorer la question des exonérations de charges, notamment pour permettre un emploi pérenne, des exonérations de charges sur des CDI, c'est-à-dire que des entreprises qui embaucheraient en CDI des jeunes verraient leurs charges exonérées pendant un an ou deux ans. On peut voir aussi toute la dynamique des emplois aidés, hein, c'est-à-dire ce qu'on a déjà vu qui a fait polémique dans notre pays, et pourtant ça a aidé un certain nombre de jeunes, ces emplois jeunes ou ces emplois d'avenir, qui sont des emplois subventionnés par l'État, qui permettent effectivement à insérer un grand nombre de jeunes. On pourrait imaginer de créer 300 000 contrats aidés de ce type, développer des chantiers d'insertion, développer aussi des parcours de formation vers les métiers de la transition écologique, vers les métiers des services à la personne, qui sont des métiers en tension. Et voilà, il y a tout ce travail qui doit être fait pour permettre cette entrée sur le marché du travail. La même chose, on l'a entendu dans le reportage, sur la question de l'apprentissage. On va avoir une chute attendue de 30% des contrats en apprentissage. Et donc là, on a besoin aussi qu'il y ait un coup de pouce, à la fois aux entreprises, mais aussi aux structures de formation, aux structures d'accompagnement, je pense aux missions locales, à Pôle emploi, qui vont permettre de pouvoir accompagner les jeunes dans cette période très difficile.
Merci beaucoup Antoine Dulin. Je voulais qu'on en parle ce matin et on va évidemment surveiller cette situation des jeunes, des nouveaux entrants sur le marché du travail. Antoine Dulin, membre du Conseil économique, social et environnemental, président de la commission Insertion des jeunes, génération Covid avec un point d'interrogation. On en parle ce matin. Il est 7h46. Très bon réveil à tous.